Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussin. Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve après cette longue interruption due à la pandémie. Vous avez suivi votre émission Judaïsme pluriel depuis fin 97. Eh bien, nous nous retrouverons désormais le jeudi à 17h30 avec rediffusion le lundi suivant à la même heure. J'aimerais vous parler avec mes invités, chercheurs, physiciens, astrophysiciens, paléontologues, biologistes, mais aussi historiens, musiciens, conteur, artiste, vous parlez, dis-je, de notre univers, de la vie, de l'homme, sa nature, son évolution. Vaste sujet, me direz-vous. Oui, mais pourquoi pas, grâce au savoir prestigieux de nos invités. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi l'univers est-il compréhensible avec ses lois qui n'ont jamais varié, ce qui nous permet d'arriver aujourd'hui à notre technologie? Car la pensée occidentale est basée sur la conviction que l'univers est compréhensible et la nature soumise à des lois, conviction toujours confortée par les progrès des connaissances et des réalisations. L'avion, la voiture, Internet, la télévision, les communications, l'imagerie médicale, la téléchirurgie, les robots, et j'en passe, la liste serait très très longue. Définir le propre de l'homme a toujours été une interrogation constante des philosophes et des scientifiques. Quels en sont les moteurs ? On ne peut parler de l'être humain sans le considérer à la fois comme un être biologique, culturel, psychologique et social. Alors, il faut chercher ses motivations dans ses gènes, bien sûr, dans son environnement aussi, mais aussi dans l'une de ses facultés, l'intelligence. Et pour un temps, l'intelligence sera l'axe principal de nos émissions. Oui, l'intelligence, et je devrais dire les intelligences. J'ai même retenu une idée qui dit qu'il y a autant d'intelligence que d'individus. Certes, les intelligences n'expliquent pas tout. L'intuition, la sensibilité sont des facteurs très importants. Mais aussi le contexte social, familial, les affects, les intérêts, les opinions politiques, les passions, les positions religieuses, les convictions, les opinions, les rêves, et bien d'autres facteurs sont importants. Mais nous nous attacherons à explorer cette faculté qu'est l'intelligence avec des thèmes comme l'intelligence de l'univers, oui, de l'univers, comme nous le verrons, l'intelligence humaine, l'intelligence animale, et bien sûr, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle et qui envahit de plus en plus notre monde. Mais d'où vient l'intelligence? Quand a-t-elle émergé? Elle siège dans notre cerveau, on le sait maintenant. 280 avant notre ère, un médecin grec, Érasistrate, s'appuie sur l'observation pour supposer que la supériorité de l'homme tenait aux circonvolutions de son cerveau, plus développé d'ailleurs que celui de l'animal. Les hommes et bien des animaux ont un cerveau plus ou moins développé. Alors, l'intelligence, est-ce une spécificité du vivant? Une des caractéristiques du vivant est de se nourrir, de se reproduire, de s'adapter à son environnement. Et justement, une des définitions possibles de l'intelligence est cette faculté de s'adapter à l'environnement pour résoudre des problèmes, et en particulier le problème de la survie. Mais certains organismes ne disposent pas d'un cerveau et ont pourtant un comportement adaptatif à leur environnement. Faut-il en déduire que le comportement intelligent existe depuis l'existence du vivant? Et cela avant même la conscience de cette intelligence par l'homme. Partout où il y a du vivant, il y aurait de l'intelligence, entendue comme un ensemble de comportements qui permettent à un individu ou à une espèce de s'adapter à l'évolution de son milieu. Alors qu'en est-il de l'instinct ? Il nous faudra remonter jusqu'à l'origine de l'univers et son évolution, puis l'origine de la vie, étudier l'intelligence animale pour trouver des traces de cette intelligence chez l'homme dans son évolution. Mais de quel homme parlons-nous ? Et quelles sont les expressions de ces intelligences et de ces émotions ? Les progrès des mathématiques et de la physique au XXe siècle sont tels que des questions jusqu'alors hors de portée du savoir humain, comme le temps, l'éternité, le début et la fin de l'univers, l'apparition de la vie, l'émergence de la conscience, sont devenus sujets scientifiques, souvent en regard des positions philosophiques ou religieuses. Mais nous verrons, et je le répéterai souvent, notre capacité à accepter une thèse, fût-elle scientifique, ne dépend pas seulement des preuves rationnelles qui l'accréditent, mais aussi de l'enjeu affectif attaché aux conclusions de cette thèse. Et nous verrons d'ailleurs de nombreux cas qui en témoignent. Je vais le répéter car c'est important. Notre capacité à accepter une thèse, fût-elle scientifique, ne dépend pas seulement des preuves rationnelles qui l'accréditent, mais aussi de l'enjeu affectif attaché aux conclusions de cette thèse. Nous parlerons de l'attitude des matérialistes, mais aussi des bolcheviks avec Staline et des nazis avec Hitler face aux conclusions des scientifiques concernant les découvertes et les thèses des chercheurs sur notre univers. Avec Pascal Pic, maître de conférence au Collège de France et chercheur en paléanthropologie, l'hominisation, c'est-à-dire l'ensemble des processus évolutifs, physiques, psychologiques et physiques, qui caractérisent le passage du primate à l'homme, Homo sapiens, doit être pensé comme une prise de conscience de notre devenir en préservant les chances d'une évolution réellement humaine. Il faudra pour cela se dépouiller de bien des certitudes. Mais qu'est-ce qu'une preuve ? Il existe des preuves de plusieurs catégories, selon qu'elles sont confrontables au réel ou non, mathématiquement modélisables, expérimentables à volonté ou simultanément modélisables et expérimentables. Cependant, dans le domaine du réel, on ne peut pas connaître tous les paramètres d'un phénomène. Voici les quatre étapes de la démarche scientifique. Tout d'abord, création d'une théorie à partir de l'observation, de l'information et de la mesure si possible. Ensuite, comparaison des implications de cette théorie aux données observables. Quand c'est possible, création d'un modèle mathématique, le faire fonctionner et comparer les résultats au réel. Enfin, si c'est possible, expérimentation répétable. Un exemple, l'exemple de la gravitation Newton. Les corps s'attirent avec une force dont l'équation est F égale KMM' sur D2, M et M' étant les masses des deux corps, D leur distance. À partir de cette équation, Newton calcule l'orbite des planètes, aboutissant à des formes elliptiques. Il obtient un calendrier prédictif des éclipses, de Lune et des planètes qui se révèlent exactes. Plus tard, Einstein a apporté une plus grande précision avec la théorie de la relativité. Un des mystères de la physique reste ses constantes. Une vingtaine, des nombres purs qui, s'ils étaient très très légèrement différents, ne permettraient pas l'univers ni la vie. Je voudrais citer ici une phrase de Voltaire à l'époque où les connaissances scientifiques sur le monde et sa genèse étaient très embryonnaires. Et je cite « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. » Et aujourd'hui, d'ailleurs, bon nombre de scientifiques, pour ne pas dire tous, s'interrogent sur l'improbabilité des réglages très fins de l'univers. Et j'espère que nous aurons la chance de pouvoir inviter un spécialiste de la question. Nous parlions de preuves. Mais en paléontologie, par exemple, ce n'est qu'à partir d'ossements, d'outils, de traces, de conjectures que l'on reconstitue l'histoire humaine, qui d'ailleurs se modifie à chaque découverte, et les dernières découvertes sur l'homme de Néandertal en témoignent. En histoire, par exemple, l'histoire se construit à partir de sources telles que les documents d'archives, les fouilles archéologiques, les monuments, les témoignages. Et toute nouvelle source avérée apporte ses remises en question. Exemple, la mise au point récente par les Israéliens d'une caméra permettant de lire sur des poteries anciennes des messages illisibles dans cette caméra apportera des connaissances nouvelles. Et que dire des vérités de la Bible, de la création, du passage de l'inerte au vivant, de la biodiversité? Nous verrons que bien des travaux de laboratoire s'appliquent à synthétiser les briques du vivant. Mais le pas n'est pas franchi et la création de la vie n'est pas pour demain. Jusqu'à présent, on n'a identifié aucune solution de continuité qui soit à mi-chemin entre l'inerte le plus complexe connu et le vivant le moins complexe connu. Et la cellule, la plus petite unité du vivant, 20 microns, soit 2 centièmes de millimètre pour une cellule humaine, et sa structure hyper complexe. Werner Haber, microbiologiste Nobel en 1978, de déclarer « La vie ne commence qu'à la première cellule fonctionnelle, laquelle, fut-elle la plus primitive, peut exiger au moins plusieurs centaines de macromolécules spécifiques différentes. » À force de nous dépasser physiquement et technologiquement, notre avenir en tant qu'espèce serait-il incertain? Et je pense à l'homme augmenté, aux cyborgs, aux robots dont on tente pour les dernières générations de les doter d'une conscience, de sentiments, comme il est dit dans le film de science-fiction Ex Machina.
Allez, il est 18h dans quelques instants. Merci Roland, je rappelle qu'on retrouve son émission à partir de jeudi 17h30. Évidemment, une belle émission présentée par Roland Bensoussan, Judaïsme Pluriel. Bienvenue sur Radio JM. Nous avons rendez-vous avec